L'œuvre du cardinal Newman est une œuvre de premier plan, à la fois au niveau doctrinal et au niveau intellectuel. Comment expliquer que ses confrères anglicans ne l'aient pas suivi en plus grand nombre après sa conversion?
C'est une question tout à fait pertinente. Un certain nombre l'ont suivi. Donc, quand il s'est converti à l'Église catholique, plusieurs autres l'ont accompagné. Et par la suite, motivés par son exemple, d'autres ont suivi. Mais ça n'a pas été massif. Et il y a des raisons très concrètes pour cela. Et qui sont encore valables aujourd'hui. Aujourd'hui, encore tout récemment, il y a un certain nombre d'évêques, quelques centaines de prêtres, quelques milliers de fidèles qui sont passés à l'Église catholique, mais beaucoup d'autres souhaiteraient le faire. Et on m'a cité récemment le cas de quelqu'un que la personne qui me parlait connaît personnellement, qui est catholique de cœur. Qui voudrait bien passer à l'Église catholique, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que on perd tous les bénéfices d'une Église établie. Pour Newman, se convertir à l'Église catholique, ça a signifié cesser d'être professeur à Oxford. Ne plus avoir aucune charge pastorale, plus aucun revenu lié à l'enseignement ou lié à une charge pastorale. Il s'est retrouvé pauvre et devant vivre de manière extrêmement modeste. Lui-même avait fait le choix d'être, tout en étant anglican, prêtre anglican, de vivre dans le célibat, mais c'est la plupart des prêtres anglicans étaient des prêtres mariés. Alors, même si on est convaincu que la vérité se trouve dans l'Église catholique, il faut tout perdre. Perdre sa situation, perdre. Donc, ça demande un certain héroïsme. Mais intellectuellement, je pense que ça finira par percer. Et je crois que la béatification Newman, peut-être un jour sa canonisation, sa proclamation comme docteur de l'Église, aidera d'autres encore à faire le passage. Et puis, voilà, Dieu sait comment va évoluer l'Église anglicane. On sent qu'il y a un mouvement qui s'est accentué ces derniers temps. Et ce qui choquait Newman de son temps est encore ce qui choque un certain nombre aujourd'hui, c'est qu'il suffit d'une majorité dans un synode pour approuver une doctrine qui n'est pas conforme à la tradition authentique. Newman a quitté l'Église anglicane pour cela, parce qu'il y avait des choses qu'on introduisait et qui n'était pas compatible avec les origines. Quand il a appris, je prends un exemple très, qui n'est pas tellement théologique, mais qui est ecclésial, quand il a appris que l'Église anglicane allait créer un diocèse à Gibraltar, un diocèse anglican, alors qu'il n'y avait, et aussi un diocèse à Jérusalem, alors qu'il n'y avait aucun anglican là-bas, mais que ça faisait partie d'une stratégie de l'Empire britannique pour bien, lui qui avait un sens aigu de l'épiscopat comme étant la succession des apôtres, alors qu'on transforme l'épiscopat en un pion pour les intérêts politiques de l'Empire britannique, ça lui était insupportable. Il trouvait qu'une église qui fait ça perd sa crédibilité. Et aujourd'hui, comment réagirait-il quand, s'il devait savoir que la faveur d'un vote majoritaire, on décide qu'il y aura des femmes évêques, ce qui pour Newman aurait été absolument impensable, pas du tout qu'il fût misogyne, mais parce qu'il comprenait le sens profond du côté masculin du sacerdoce qui rend présent le Christ, époux de l'Église. Et ce qui est de fait beau dans l'Église catholique, c'est que malgré les tourmentes, malgré les tentations, malgré les hérésies qui se développent, malgré les infidélités, il y a toujours une fidélité à la tradition apostolique. Pas toujours présentée de la manière la plus pertinente qui soit, mais il y a toujours une fidélité de fond. Pas toujours en valorisant tout ce qui devrait l'être. J'aime beaucoup une comparaison que j'ai entendue un jour, disant dans un magasin, il y a ce qui est à l'étalage et il y a la réserve. Alors, il y a parfois des choses qui sont dans la réserve, mais que on ne met pas à l'étalage. Et par contre, il y a d'autres confessions chrétiennes, orthodoxes, ou aussi issues de la Réforme, qui n'ont pas tout ce qu'il faudrait dans la réserve, mais qui savent très bien mettre quelque chose à l'étalage. Eh bien, la manière dont l'Église catholique présente l'idée chrétienne n'est pas toujours, sur tous les points, idéale, mais il y a toujours une fidélité globale. Il n'y a jamais rien qui est trahi. Tout n'est pas toujours de manière également heureuse mis à l'étalage. Il y a des choses qui devraient être à l'étalage et qui n'y sont pas suffisamment, mais tout le dépôt de la foi et toute l'idée chrétienne y est présente. Et il y a là comme le doigt de Dieu, et c'est parce qu'il y a un magistère dans l'Église catholique que c'est possible. Cette part de l'Apologia pro vita sua est splendide, écrite dans un anglais d'une richesse extraordinaire. Newman touche aussi beaucoup les intellectuels britanniques par la qualité exceptionnelle de sa langue.
Le cardinal Newman a-t-il pu tenir la crise moderniste qui était déjà très avancée sous le pontificat du pape Léon XIII?
Je crois que oui. D'abord, il n'a pas pu l'avoir dans tous les développements qui se sont produits ultérieurement, mais il la vivait déjà, il l'avait déjà vécu dans l'Église anglicane, parce qu'il y avait une aile libérale dans l'Église anglicane qui lui faisait horreur et qui était déjà dans cette tendance-là. L'adaptation, mais qui, dans l'infidélité à la source. Et on fait d'un aspect partiel de l'anthropologie humaine le critère de ce qui mérite d'être retenu dans la foi. Car c'était ça le modernisme. C'est considérer que ce qui est premier, c'est une sorte d'élan vital, et on ne retient de la vérité de la révélation que ce qui convient à notre anthropologie. Et aujourd'hui encore, c'est une menace qui est partout présente. On retient de la liturgie ce qui nous convient, on retient du credo les articles qui nous conviennent, et puis il y en a d'autres que l'on néglige. Ce n'est plus la tradition apostolique qui est le critère, mais c'est la convenance personnelle ou collective, l'idéologie. On peut lire le christianisme de manière idéologique. On ne le lit plus tel qu'il est dans son idée, mais à partir d'une grille de lecture qui est nôtre. Bien, cela, Newman l'a vu dans l'Église anglicane, et il a certainement entrevu que également dans l'Église catholique, cette tentation pouvait exister. Il était très impressionné par la manière dont Irénée, Saint Irénée, dans son Tertullien aussi à ça. Mais Irénée, dans son livre Adversus Herzes, contre les hérésies, Irénée, dans une très belle page du livre 3, si j'ai bon souvenir, explique comment on peut savoir ce qu'est la véritable doctrine des apôtres. Eh bien, dit Irénée, il faut aller demander ce que croit l'Église d'Alexandrie, l'Église catholique d'Alexandrie, ce que croit l'Église d'Antioche, ce que croit l'Église de Rome, qui tient le rôle principal parmi les églises. Il faut aller entendre la tradition vivante des églises catholiques, alors que les gnostiques étaient des modernistes avant la lettre, si je puis dire, eux, ils transposaient le christianisme en fonction de grilles de lecture philosophique et ne retenaient que ce qui leur convenait. Et Irénée dit non, vous voulez savoir où est la vérité, allez interroger les églises qui sont de la succession apostolique. Newman raisonne exactement comme cela.
On
interroge la tradition des apôtres, les pères de l'Église, et on interroge le magistère de l'Église pour savoir, pour avoir le juste discernement de ce qui est développement correct ou de ce qui est développement faux. Une hérésie, c'est un mot grec qui vient du verbe qui signifie choisir. Une hérésie, c'est un choix. Je retiens ce qui me convient intellectuellement dans tel aspect de la vérité chrétienne et je laisse tomber le reste. C'est un choix partisan. Une hérésie, c'est une forme d'esprit partisan. Je retiens uniquement un aspect. Un peu comme Luther l'a fait. Rien que l'écriture, pas la tradition. La grâce et les mérites de l'homme, c'est nul. La foi et pas les œuvres. Jusqu'à dire l'épître de Jacques, suspecte puisqu'elle dit que la foi sans les œuvres d'une foi morte. Bon, on choisit. On choisit. Tandis que la vérité catholique, c'est celle qui intègre conformément à l'idée et au principe, elle intègre, elle assimile comme un vivant, elle ne choisit pas en fonction de critères étriqués.